Chères auditrices, chers auditeurs de cette émission mensuelle de la Libre Pensée, bonjour. Donc, sont au micro en ce moment Michel Garin et moi, Michel Cadouche. Claudette Coudeville nous rejoindra en cours d'émission. On a eu un petit problème de voiture. Alors, tout d'abord, la Libre Pensée vous adresse ses meilleurs voeux. Elle souhaite que 2026 soit l'année où cessent ces abominations guerrières que nous vivons sous l'impulsion de colonialistes. Une année où progresse l'émancipation par rapport aux religions et dogmes de toute nature. Bon, les finances de l'État sont marquées par l'augmentation du budget des armées et déjà l'engagement de Macron pour un porte-avions coûtant initialement 10 milliards d'euros. C'est ce que développera notre ami Michel. Henri a enregistré son intervention qui se propose de répondre à un mensonge mille fois répété sur les grands médias par des gens comme des spécialistes de la laïcité. Certains affirment en effet que lors de l'adoption de la loi de séparation des cultes et de l'État en décembre 1905, l'islam n'existait pas en France. Ce qui ferait qu'aujourd'hui, l'islam devrait avoir un traitement particulier. Et nous terminerons par le meeting dont la Libre Pensée a été partie prenante pour les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État qui a eu lieu. Donc ce meeting qui a eu lieu le 6 décembre à Paris, dans les médias, vous n'en avez pas vu mention. Alors qu'il signale facilement un regroupement d'extrême droite de 15 personnes. Donc, au sens propre du terme, nous n'allons pas faire silence radio là-dessus. Et je demanderai à Claudette de nous en faire un compte-rendu. Voilà, Michel, excusez-moi. Donc, l'obstination gouvernementale pour aller vers la militarisation du pays me paraît indéniable. Donc, Michel, peux-tu nous donner des indications ?
Oui, bon, chers amis, excusez-nous un peu, c'est le début de l'année, donc on a des petits problèmes de mise en ordre, voilà. Alors, comme c'est à moi de vous parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va, tout le monde s'en aperçoit, hein, le monde va vers, tranquillement, vers le désordre, vers la guerre, vers l'irrespect de la démocratie. Alors, je vais vous parler de la guerre. Premièrement, le président de la République, Emmanuel Macron, a saisi l'occasion de la traditionnelle fête de Noël avec les troupes, cette année aux Émirats Arabes Unis, pour annoncer la construction d'un nouveau porte-avions afin de remplacer le Charles de Gaulle, qui fêtera en 2026 ses 25 ans. Le projet a été lancé en 2018 et la mise en service de ce navire de nouvelle génération, que l'on appelle PANG, hein, porte-avions nouvelle génération dans le jargon, est prévu en 2038. L'État entérine ainsi la construction du porte-avions de nouvelle génération pour lequel une autorisation d'engagement de 10,2 milliards d'euros avait été inscrite dans le projet de loi de finances de 2025. Bien entendu, aujourd'hui, on parle plutôt de 30 millions. Alors, 4 ans d'études et de premiers achats de grands équipements étaient déjà notifiés en 2024. Il s'agira de l'un des plus grands bâtiments de guerre au monde et du plus imposant jamais réalisé en Europe. D'une longueur de 310 mètres pour une largeur maximale de plus 85 mètres au niveau du pont d'envol, 2000 marins et au moins 40 aéronefs, il sera réalisé à Saint-Nazaire par les chantiers de l'Atlantique et Naval Group et nécessitera également de nouvelles infrastructures portuaires à édifier à Toulon. La maîtrise d'œuvre de ce programme est assurée par Naval Group et les Chantiers de l'Atlantique qui ont pour l'occasion créé une société commune, MO Porte-Avions, 65% et 35% du chiffre d'affaires qui se partagent, ainsi que Technique Atom pour la partie liée aux chaufferies nucléaires. Parce qu'on l'a compris, c'est bien un porte-avions nucléaire que l'on va construire. Le dossier de lancement et de réalisation du successeur du porte-avions Charles de Gaulle a été signé début décembre lors d'un comité ministériel d'investissement. Maintenant que le DNR est signé, la commande du bâtiment en lui-même est entérinée et irréversible. Ce qui autorise sa mise en chantier est la commande des grands équipements comme les catapultes électromagnétiques, EMALS et les brins d'arrêt AAG qui vont être fournis par le groupe américain General Atomic, ce qui peut bien sûr poser des problèmes également. Le DLR donc déclenche aussi les importants travaux d'adaptation des infrastructures de la base navale de Toulon, dans lequel un nouveau pôle industrialo-portuaire comprenant une vaste cale sèche de plus de 365 mètres de long, ainsi que de nouveaux quais, ateliers et bâtiments va être édifié pour accueillir le PANG. Les travaux doivent débuter en 2026 en vue d'une livraison en 2035. Alors bien sûr, c'est une décision pour l'État, une décision politique majeure. La commande d'un nouveau porte-avions est un événement qui n'était pas intervenu en France depuis quasiment 40 ans. C'était en février 1986, lorsque le président François Mitterrand et le Premier ministre Laurent Fabius autorisèrent la construction du Charles de Gaulle. Lancer un tel programme nécessite en effet des ressources financières importantes et aussi une indispensable volonté politique. Je l'ai dit tout à l'heure, initialement, il était prévu 10,2 milliards d'euros. Aujourd'hui, on sait qu'on en est a priori à plus de 30 milliards. À ce jour, seuls les États-Unis et la France ont des porte-avions nucléaires à catapulte, un club très restreint que la Chine a entrepris de rejoindre dans les années qui viennent. Aucun pays n'a les capacités technologiques et opérationnelles pour atteindre ce niveau. Bien d'autres s'équipent de porte-avions ou porte-aéronefs moins complexes à propulsion conventionnelle et tremplin, par exemple. C'est le cas du Royaume-Uni, de l'Inde, de la Turquie et du Japon. Une tendance qui va faire accentuer le développement des drones embarqués. Bien sûr, on le comprend, les drones, c'est une nouvelle technique de guerre. On l'a déjà vu dans plusieurs opérations et ça va s'amplifier. Étant donné que c'est une base, ça devient donc le porte-avions, devient une base aérienne mobile capable de franchir 1000 km par jour et de profiter de la liberté de naviguer dans les eaux internationales pour évoluer partout dans le monde et se positionner au plus près d'une zone de crise. Il offre une capacité de projection rapide, à la fois unique et souveraine, ne nécessitant aucune autorisation de survol d'espace aérien étranger pour rejoindre un théâtre d'opération. Vous comprenez bien que, ce faisant, on va positionner le porte-avions partout où il y aura des conflits dans le monde, surtout pour appuyer ce qu'on appelle aujourd'hui les forces extérieures. Le programme PANG a aussi vocation à répondre à ces enjeux déterminants de la guerre de futur en intégrant de nombreuses innovations et avec une forte évolutivité permettant d'ajouter les technologies qui apparaîtront au fil du temps, comme on a vu maintenant avec l'IA et plein de matériel informatique qui permettront d'avoir une base de données data, de data données en gros, si vous préférez. Normalement, le PANG doit, en 2038, remplacer le Charles de Gaulle. Toutefois, une étude va être conduite quant à la gestion de la permanence du groupe aéronaval français. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va pouvoir les mettre. Pas le tout d'avoir un porte-avions, on ne va pas le gagner dans le port de Brest ou dans le port de Toulon. Il sera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux environs des opérations extérieures, des OP, ce qu'on appelle les OPEX. Il s'agit notamment de plancher sur la construction d'un second PANG, il nous en prépare un deuxième, ou d'une solution complémentaire, par exemple des porte-drones, ou éventuellement une alternative basée sur un porte-avions à propulsion conventionnelle et doté de nouveaux réacteurs nucléaires modulaires. Voilà, vous voyez qu'il y a de l'espoir pour l'industrie atomique, pour les réacteurs atomiques. Voilà ce que j'ai à dire pour notre première partie.
On nous parle de menaces existentielles. Alors, comment peux-tu traiter cet aspect ?
Cet aspect, je vais le traiter d'une façon surtout au niveau budget, je dirais. Il faut savoir que c'est le budget. Tout ça est géré par le budget, bien entendu. Alors aujourd'hui, il est prévu une hausse de 6,7 milliards d'euros sur le budget de la défense. Mais ça veut dire quoi, ce 6,7 millions ? Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Depuis 2017, le budget du ministère des Armées a presque doublé, passant de 32,7 milliards d'euros à 57,1 milliards d'euros l'année prochaine. si le PLF, ce qu'on appelait le plan de, local de financement, exactement, 2026, est adopté, pour 2026, les crédits de la mission défense devraient donc augmenter de 67 milliards d'euros. Alors, il y a 33,2 milliards d'euros étaient déjà prévus par la loi de programmation militaire pour 2024 à 2030. 3,5 milliards d'euros supplémentaires proposés dans le PLF de 2026. Ce qui fait qu'en total, on aura un budget de 63,8 milliards d'euros. Alors, bien entendu, ces crédits ont pour but de moderniser les forces armées et de renforcer leur efficacité opérationnelle face aux nouvelles menaces. On l'a vu, on va construire un porte-avions, on va peut-être construire un deuxième. Toujours est-il que dans ce budget, c'est l'armée qui va en récupérer. On l'a vu, on a fourni des chars, c'est-à-dire en gros, on a fourni des vieux chars à l'Ukraine et en la place, on fabrique des nouveaux chars à tel point qu'on est obligé d'augmenter le temps de fonctionnement des usines d'armement. Alors les conflits en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient et au Moyen-Orient, combinent désormais les moyens militaires conventionnels, armements de haute technologie et usage massif de drones sur les plans de bataille. On a pu le voir que sur les plans de bataille, les drones, je ne sais pas comment ils les fabriquent, à quel rythme ils les fabriquent, mais quand on voit les conflits armés qui se passent aujourd'hui en Ukraine, plus particulièrement, hein, l'Ukraine et la Russie, quand on vous dit qu'il y a 40, 50 drones qui sont partis, qui ont été abattus aujourd'hui, demain autant, je ne sais pas quelles limites on peut avoir au niveau des drones. Mais toujours est-il que les budgets sont importants. Alors bien sûr, la France n'est pas le premier, n'a pas le premier budget. Hein. On le voit en définitive, en France, elle est 9e sur le rang mondial, je dirais. Et bien entendu, avec 64,7 milliards de dollars en définitive. Bien sûr, loin devant les États-Unis, qui en font 997. Après la Chine, la Russie, l'Allemagne. L'Allemagne est bien devant la France, le Royaume-Uni également. Et derrière nous, on a l'Israël et la Pologne qui sont quand même bien classés. Alors le problème, pourquoi des crédits de guerre? C'est ce que l'on peut se poser. Mais on n'a pas le temps de se la poser longtemps. C'est qu'en définitive, on s'aperçoit que le nombre de conflits armés est au plus haut depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 10% de la population mondiale est exposée à la guerre, qui peut prendre différentes formes. Au traditionnel affrontement entre États s'ajoutent les conflits ultra-étatiques et la violence liée à la criminalité organisée. Les guerres en Irak, à Gaza ou en Ukraine, omniprésentes dans les médias, ne sont que la partie la plus visible d'un monde en proie à une recrudescence de la violence politique et des conflits armée. Un chiffre en témoigne. Une personne sur 8 est désormais exposée à la guerre, selon l'Armed Conflict Location and Event Data, une organisation qui est de référence en matière de collecte et d'analyse de données sur les conflits. La planète a connu en 2024 le nombre de conflits armés le plus élevé depuis 1946, détrônant 2023, qui était déjà une année record, selon une étude norvégienne publiée mercredi. Cette enquête met en lumière les risques liés à un désengagement américain. L'an dernier, 61 conflits ont été enregistrés dans le monde, répartis entre 36 pays, certains étant déchirés par plusieurs conflits simultanément, montre le rapport réalisé par l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo. En 2023, ces chiffres étaient respectivement de 59 et 34. Ce n'est pas simplement un pic, c'est un changement structurel. Le monde aujourd'hui est bien plus violent et bien plus fragmenté qu'il ne l'était il y a 10 ans, a commenté Siri Aas-Rustal, rédactrice principale du rapport qui observe les tendances sur la période de 1946 à 2024. L'étude s'appuie sur les chiffres compilés par l'université suédoise d'Uppsala. L'Afrique est resté le continent le plus touché, avec 28 millions de conflits étatiques impliquant au moins un État, suivi par l'Asie, 17, le Moyen-Orient, 10, l'Europe, 3, et les Amériques, 2. Plus de la moitié des États touchés sont déchirés par deux conflits ou plus. Bien sûr, on retient bien entendu les affrontements sanglants en Ukraine, à Gaza et au Tigré, que l'on oublie souvent. Le nombre de morts liés à des combats est, lui, resté à peu près stable par rapport à 2023, à environ 129 000, ce qui fait de 2024 la quatrième année la plus sanglante depuis la fin de la guerre froide en 1989, selon l'étude. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Ce bilan a été tiré par les guerres en Ukraine, 160 000 morts, et dans la bande de Gaza, 70 000 morts, mais aussi par les affrontements dans la région éthiopienne, donc du Tigré, que beaucoup ignorent. Alors aujourd'hui, bien sûr, qu'on voit des faits nouveaux, ça, il ne faut pas le cacher. Pourquoi le monde est inquiet? D'abord, premièrement, il faut se rappeler que, enfin, ça n'a pas besoin de s'en rappeler, on l'a aujourd'hui dans les journaux, dans tous les journaux, il y a le problème du Venezuela. Alors, je ne vous parlerai pas spécialement du Venezuela, je ne vous ferai pas un commentaire sur la justesse ou pas de cette invasion. Le véritable motif de l'agression, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en définitive, le véritable motif de l'agression contre la nation souveraine du Venezuela, c'est Trump lui-même qui l'a donné il y a quelques jours, en affirmant que, selon lui, le Venezuela, en nationalisant le pétrole, avait volé les États-Unis. Rappelons que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. 6 heures après cette agression, on ne s'étonnera pas du silence du gouvernement Macron, déjà complice depuis des années du gouvernement génocidaire de Netanyahou, soutenu à bout de bras par Washington. Alors, il faut savoir que les réserves pétrolières, hein, il y a quelques chiffres, bien sûr. Au Venezuela, aujourd'hui, on est à 303,2 milliards de barils, loin devant l'Arabie Saoudite, qui en a 276, et bien entendu, très loin devant les États-Unis, qui eux n'en ont que 45. Donc, on comprend très bien pourquoi Trump veut remettre la main sur ces dépôts de pétrole, sur ce stock de pétrole. Bien entendu, aujourd'hui, puisqu'elle a été saignée à blanc par les Américains déjà en empêchant le Venezuela d'exporter ce qui lui rapportait le plus, bien entendu, la conséquence est là. Et il faut pas savoir qu'en dehors du pétrole, des barils de pétrole, le Venezuela dispose également de ressources exploitables allant de l'or au fer en passant par le bauxite, le coltan, le diamant ou le charbon. Ce sont des trucs qui rapportent et qui sont très visés par l'empire Trump, je dirais. Alors, on dira, bon oui, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on le sait, aujourd'hui, hier, on annonce encore que maintenant, il va mettre la main sur le Groenland. Et il ne le dit pas en rigolant, je pense. Donc, on voit très bien qu'à partir du moment, pourquoi on peut être inquiet, on le voit très bien qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a un État qui bafoue le droit international et qui peut intervenir là où il veut, comme il a dit, et j'interviens en Iran, s'il y a des émeutes, s'il y a des morts dans les émeutes, je vais prendre le Groenland. Ils sont intervenus dans les pays d'Afrique centrale, mais il ne faut pas oublier quand même que là-dedans, la France n'est pas vierge de tout ça. Il faut rappeler qu'il y a 2 ou 3 jours, les Français avec les Anglais sont intervenus en Syrie, si je ne me trompe pas. Hein, ils ont fait une opération sur le Syrie, ils ont bombardé là-bas, donc on voit qu'il n'y a pas que Trump. Et ensuite, bien entendu, tous ces trucs-là font qu'on peut être inquiet et on est tout en droit de s'inquiéter. Alors voilà pourquoi aujourd'hui on a besoin de fonds, de budget militaire, on augmente le budget militaire et quand on fait peur aux gens, on peut accepter tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce que l'on veut. Et ça, voilà l'inquiétude que l'on a sur la guerre. C'est vrai que nos enfants ne sont pas à l'abri de ces même pas nos enfants d'ailleurs, je me demande moi-même, je sais pas si est-ce qu'à la fin de l'année je serai toujours là, je sais pas, on peut être pessimiste, on peut être optimiste aussi, mais vu l'allure que prennent les choses, je pense qu'il faut rester raisonnable et faire en sorte quand même que le but essentiel c'est d'essayer de faire la paix et la paix à tout prix. Il faut d'abord discuter avant de balancer des bombes. Parce que le jour où on basculera, on balancera une bombe nucléaire, c'est pas une bombe nucléaire qui explosera. C'est l'humanité qui disparaîtra tranquillement. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci. As-tu une plage musicale à nous proposer?
Alors, oui, c'est encore moi. Cette fois-ci, c'est pas pour la guerre. Enfin, c'est quand même lié à la guerre, quand même. Puisque quand on parle de la guerre, bien entendu, ce qui est bien, comme je l'ai dit, c'est que le mieux, c'est de ne pas y aller à la guerre. Et à ce moment-là, il faut, faire en sorte de ne pas répondre aux ordres de mobilisation. Voilà. Donc, la chanson que l'on a prévu de passer, c'est « J'avions reçu commandement ». Cette chanson est une chanson de soldats chantée en France au 18e et ou 19e siècle. Elle est anonyme. Et on la trouve également sous le titre « Le conscrit ». C'est une chanson antimilitariste sur un registre plutôt humoristique, on voit qu'on a besoin d'humour, qui voit le soldat effaré et effrayé s'enfuir à la fin de la chanson. Yves Montand, c'est une chanson donc de Yves Montand dans le disque vinyle « Chanson populaire » qui est paru en France en 1955. Il y a une réédition du CD en 1992. Alors, pour moi, Yves Montand, Yves Montand, je connais, c'est ma génération. Mais je me suis demandé quand même si les jeunes aujourd'hui connaissaient Yves Montand. Donc, il faut savoir que Yves Montand, de son vrai nom Ivo Olivi, est né le 13 octobre 1921 à Monsumano Terme, en Italie, est mort le 9 novembre 1991 à Senlis, en France. C'est bien entendu un chanteur qui a été également acteur, qui a joué d'ailleurs des films assez, même, j'irais même très engagés. Et bien entendu, je vais vous passer maintenant cette chanson.
J'avions reçu commandement de partir pour la guerre. Que ne me soucions point pourtant d'abandonner notre mère. Pourtant là ben fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Pourtant là ben fallu, j'ai pris mon sac et je suis venu. Ils m'ont donné un grand fusil, une sabre, une gibecière, une grande capote, un grand tapis pendant jusqu'au derrière. Et fallait se tenir drait, aussi drait qu'un piquet. Et fallait se tenir drait, aussi drait qu'un piquet. Il y en avait sur leurs chevaux qui faisaient bien 2 mètres, avec 2 ou 3 plumes zozio plantées dessus leur tête, et 2 poils d'artillon tout alentour de leurs talons, et 2 poils d'artillon tout alentour de leurs talons. Ils m'ont placé en faction devant une citadelle. Ceux qui ne connaissions point mon nom m'appelions Sentinelle. À chaque chat qui passait, fallait crier Coucchi Coucché. À chaque chat qui passait, fallait crier Coucchi Coucché. Ils m'ont mené dans un grand champ qu'appelions champ de bataille. On s'étripait, on s'épiolait, c'était pique de la volaille. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et je suis parti. Ma foi, la peur m'a pris, j'ai pris mon sac et me voici.
Ça y est, j'ai peur. Voilà, donc pour traiter de la réalité de la présence de l'islam en France au moment du vote de la loi de séparation. Et en particulier, qu'en est-il de l'attitude de la France en tant que puissance coloniale ?
Oui, alors je rappelle que c'est un enregistrement, hein, parce que notre ami Henri est malade, donc il nous a fait parvenir cet enregistrement. Donc vous pardonnerez un peu peut-être le son de cet enregistrement.
Bien évidemment, l'islam comme religion est représenté en France en 1905 au moment du vote de la loi de séparation. Et aucun député à l'Assemblée nationale, aucun sénateur au Sénat n'ignore ce fait. Pourquoi ? Parce que déjà la France possède à ce moment-là un immense empire colonial dont l'Afrique constitue une partie très importante. Et bien sûr, il y a des millions de musulmans au sein de ces différentes colonies africaines. Et pas seulement au Maghreb, bien entendu, aussi dans toute une série de pays d'Afrique noire. Tout le monde le sait à ce moment-là. Je prendrai, parce que je n'ai pas le temps de traiter tous les pays, et notamment Mayotte, les Comores, tout ça, mais je parlerai de l'exemple de l'Algérie, qui est un exemple particulier, mais très révélateur. En 1905, l'État, la puissance coloniale, considère que la France possède l'Algérie, mais que l'Algérie fait partie de la France. Ce n'est pas exactement une colonie comme une autre. Il s'agit d'un peuplement, il s'agit de... Voilà, l'Algérie, c'est la France. Et la raison pour laquelle, à partir de 1848, 60 ans avant le vote de la loi de 1905, donc à peu près, l'Algérie est divisée en trois départements français. Département d'Alger, département d'Oran, département de Constantine. Pour la petite, donc ça, tout le monde le sait aussi, évidemment. Pour la petite histoire, il est important de signaler que le premier député de confession musulmane qui est élu à l'Assemblée nationale, et c'est le docteur Philippe Grenier, en 1898-1890 à peu près, qui est élu député de Pontarlier, donc sous l'étiquette radical-socialiste. Il a un programme tout à fait à gauche, et comme il est médecin, il est particulièrement préoccupé par les questions d'hygiène, de santé publique, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, la mosquée de Pontarlier porte le nom du docteur Philippe Grenier. Voilà. Donc, évidemment, tout le monde sait ça aussi en 1905, parmi les députés et les sénateurs. Donc, affirmer que la loi de 1905 n'avait pas prévu l'islam, etc., c'est, disons, soit de l'ignorance pure, soit de la mauvaise foi, du mensonge le plus délibéré. Voilà. Ça, c'est le premier aspect de la question. Le deuxième aspect de la question, c'est qu'en est-il des rapports entre les musulmans et la question de la laïcité, c'est-à-dire de la séparation des cultes et de l'État, c'est-à-dire la question de la laïcité de conscience qui inclut la liberté religieuse. La réponse, nous l'avons parce qu'en 1907, le gouverneur général de l'Algérie, qui représente donc la puissance coloniale, interroge le gouvernement, le ministère de l'Intérieur notamment, pour savoir... Comment, qu'est-ce qu'on fait pour appliquer la loi de 1905 en Algérie? Et la réponse, c'est que, bon, ben, il faut appliquer la loi puisque c'est la loi, mais il y a un rapport à côté qui dit, attention, la situation en Algérie est particulière, et donc il faut des aménagements. Je vous lis l'extrait du rapport qui est présenté par André Maginot, alors conseiller justement du gouverneur général de l'Algérie. Il s'agit d'adapter la nouvelle législation à la situation spéciale de l'Algérie et de permettre au gouverneur général, à qui incombe la responsabilité des intérêts de notre domination, de prendre les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. En clair, il faut donc éviter quoi que ce soit qui puisse ressembler à l'indépendance, y compris donc de l'Algérie par rapport à la France, mais donc y compris du culte musulman par rapport à l'État. Et donc la décision, c'est qu'on ne va pas appliquer la loi de 1905 tout en disant que c'est un principe généreux qu'il faut appliquer. C'est un discours qu'on connaît bien, et encore aujourd'hui. La puissance coloniale, la République française, va continuer à salarier, d'ailleurs le clergé catholique, et aussi les religieux musulmans, les docteurs de la foi, etc., les oulémas, enfin tous ceux qui pratiquent le culte, qui organisent le culte, plus exactement. Voilà. Et c'est donc non pas un refus de la population algérienne, non pas un refus d'ailleurs des musulmans, non pas un refus du mouvement nationaliste algérien d'appliquer la séparation des cultes et de l'État, c'est un refus de la puissance coloniale d'appliquer la loi de 1905 en Algérie. Et c'est des choses qu'on retrouvera sous des formes différentes en Afrique, mais aussi dans d'autres régions, dans d'autres zones de possession coloniale. Mais on n'a pas le temps, bien sûr, aujourd'hui de...
Oui. Donc, Henri, dans une émission précédente, nous avait parlé de la lettre de l'émir Khaled au président de la République française. Et il va nous dire maintenant... si c'est une position isolée ou est-ce que c'était largement partagé dans le mouvement nationaliste algérien?
Effectivement, la lettre de l'émir Khaled, qui est le neveu d'Abdelkader et qui est la figure de proue à ce moment-là du mouvement algérien, du mouvement nationaliste algérien, qui est une lettre du 3 juillet 1924, est adressée au président de la République française, Édouard Herriot. J'ai pas le temps de tout lire. C'est une lettre qui dépose 10 revendications. Je vais lire les points à partir du point 5. Application intégrale aux indigènes de la loi sur l'instruction obligatoire avec liberté de l'enseignement. Point 6, liberté de presse et d'association. Point 7, application aux cultes musulmans de la loi de la séparation des cultes et de l'État. Point 8, amnistie générale. Évidemment, aucun de ces points ne recevra l'agrément de la puissance coloniale. Et évidemment, cette position n'est pas une position isolée qui serait propre à l'émir Khaled, qui serait un peu fugitive dans l'histoire du mouvement nationaliste algérien. C'est absolument pas le cas. Ainsi, par exemple, en 1943, alors dans une situation politique très compliquée, très difficile, les anglo-saxons ont débarqué en Algérie, mais le général Giraud qui est au pouvoir est quand même un pétiniste notoire, antisémite, etc. Il reçoit le soutien des Américains qui veulent plutôt lui comme figure de l'armée française que du général de Gaulle. Donc c'est une situation très compliquée, il y a des militaires partout, et donc les nationalistes algériens qui se réunissent sont obligés de prendre un certain nombre de précautions oratoires, d'écrire les choses de manière un peu prudente sur certains points, parce que tout le monde veut bien préserver son existence quand même. Et donc on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Le 17 janvier 1943, se réunissent à Alger, chez l'avocat et homme politique Ahmed Boumendjel, des personnalités représentant le PPA, le Parti du peuple algérien de Messali Hadj, qui était le successeur du MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, qui est le successeur surtout de l'étoile nord-africaine. Il y a aussi des membres de l'association des oulémas, c'est-à-dire des religieux musulmans, hein, des docteurs de la foi, de ceux qui connaissent la religion, des représentants des élus musulmans et le président de l'association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. Donc on voit que c'est quelque chose de très large. C'est Ferhat Abbas, célèbre homme politique algérien aussi, qui fut chargé d'écrire le texte du manifeste. Et le manifeste sera approuvé par tous les participants à cette conférence. C'est ce qu'on appelait le manifeste du peuple algérien. Et Messali Hadj fera, parce qu'il lui il est retenu en France, il est détenu en France, par l'intermédiaire de messagers, approuve le manifeste et y ajoute un additif pour la constituante souveraine en avril ou juin 1943. Là, c'est pareil, je n'ai pas le temps absolument de tout lire. Je vais juste lire les 3 ou 4 paragraphes judicieux pour aujourd'hui, pour notre sujet d'aujourd'hui, la séparation. Donc, la dotation de l'Algérie, il réclame la dotation de l'Algérie d'une constitution républicaine et sociale propre. C'est une façon de dire l'indépendance, puisque vous avez votre propre constitution, c'est que vous êtes un pays indépendant. Constitution garantissant la liberté et l'égalité absolue de tous ses habitants, sans distinction de race ni de religion. Nous sommes en 1943. Les points suivants, je saute. Après, l'instruction gratuite et obligatoire pour les enfants des deux sexes, la liberté du culte pour tous les habitants et l'application à toutes les religions du principe de la séparation de l'Église et de l'État. C'est on ne peut plus clair. Donc une nouvelle fois, c'est le mouvement national algérien qui réclame, le mouvement pour l'indépendance de l'Algérie, les mouvements, qui réclament l'application de la séparation des cultes et de l'État, c'est-à-dire la garantie de la liberté de conscience et l'assurance de la liberté de culte, en toute indépendance de l'État, et le culte étant indépendant de l'État, l'État est indépendant des cultes, cela s'est réclamé par le mouvement nationaliste algérien. Et c'est la puissance coloniale qui refuse et qui s'y oppose, et qui refuse et qui s'y opposera, jusque à ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie à partir de 1954, où évidemment les événements de la révolution algérienne prendront un tour extrêmement tragique, avec ce qu'il faut, on est obligé d'appeler des affrontements intercommunautaires gravissime. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle aurait été d'histoire si elle avait été autrement? Ça, je ne suis pas capable de le dire. Enfin, voilà. Et donc, affirmer une nouvelle fois aujourd'hui que l'islam n'était pas présent quand la loi de 1905 a été adoptée et que ce n'est pas sûr qu'il soit compatible avec la laïcité, donc avec la séparation des cultes et de l'État, avec la liberté de conscience, c'est tout simplement nier la vérité historique. Voilà, j'en ai terminé pour...
Claudette, est-ce que tu peux nous présenter donc la chanson de qui va suivre ?
Alors, Henri nous a fait passer le choix d'une chanson, « Quand les hommes vivront d'amour ». Cette chanson est une chanson québécoise composée par Raymond Lévesque alors qu'il vivait à Paris en 1956, juste après la fin de la guerre d'Indochine. Cette chanson est l'œuvre de sa carrière et celle qui a assuré son succès. Elle a d'abord été enregistrée et interprétée la même année par Eddie Constantine. Elle est rapidement devenue l'hymne des pacifistes de tous les horizons. Ainsi, de très nombreux chanteurs tels Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Robert Charlebois et de très très nombreux autres l'ont reprise. Et les derniers que je viens de citer, Leclerc, Vigneault et Charlebois, l'ont reprise notamment en 1975 lors de l'ouverture de la Super Franco Fête, sorte de Woodstock québécois, devant des milliers de jeunes militants venus d'une soixantaine de pays. Elle est la chanson québécoise la plus reprise dans le monde. Henri a donc choisi de nous faire découvrir une de ses reprises, celle de Fabienne Thibault, que je vous laisse écouter.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour,
quand les hommes vivront
ce
d'amour,
sera la paix sur la terre,
la paix sur la terre.
Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère.
Qu'il n'y aura
superbe. Donc, maintenant, Claudette, à propos du meeting qui a eu lieu à Paris le 6 décembre et dont la Libre Pensée a été partie prenante, je vais t'en demander un compte-rendu.
Merci Michel. Donc d'abord bonjour à tous et puis je vous souhaite une bonne année, même si elle commence un peu difficilement. Alors effectivement, le 6 décembre, dans le cadre des 120 ans du vote de la loi de séparation des Églises et de l'État qui a marqué en France l'avènement du droit à la liberté de conscience, deux manifestations se sont tenues, deux manifestations complémentaires, donc se sont tenues à Paris. La matinée, placée sous la responsabilité scientifique de la Vigie, a été consacrée à la réflexion sur la laïcité d'un type académique, rassemblant de très nombreux éminents spécialistes de la question. L'après-midi, sous l'égide conjointe de la Vigie de la laïcité et des cinq associations organisatrices, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, Solidarité laïque et l'Union rationaliste, un meeting unitaire national et international s'est tenu dans la grande salle de la Bourse du Travail de Paris, pleine à craquer. Tout le mouvement laïque était là. Les principales organisations de défense des libertés démocratiques, tous les syndicats laïques de ce pays, des organisations de travailleurs et travailleuses immigrés, de même que plusieurs militants représentant des organisations laïques dans le monde, venus du Portugal, des États-Unis. 27 organisations en tout qui ont pu prendre la parole, quelquefois plusieurs fois. Je ne peux évidemment pas, faute de temps, énumérer l'ensemble des organisations présentes, mais vous pourrez les retrouver sur notre site départemental www.lp-13.org, que vous connaissez certainement maintenant par cœur. Au travers de leurs interventions, les organisations ont montré le chemin parcouru pour arriver au vote de la loi de séparation des cultes et de l'État, pour assurer la liberté de conscience des citoyens face aux prétentions cléricales, loi qui a écarté la menace des guerres civiles dans notre pays. Elles ont fait le constat du dévoiement subi par la loi de 1905 durant ces dernières décennies. Elles ont rappelé que la loi de 1905, que la loi de 1905 n'est pas une loi, est une loi de liberté, celle de la liberté de conscience de tous les citoyens, et non un instrument de discrimination, de surveillance et de répression des religions, telle que l'impose la loi liberticide, dite loi séparatisme. Et de ce fait, elles ont rappelé que cette loi 1905, nécessite une mobilisation spéciale du mouvement laïque pour qu'elle redevienne la loi de liberté qu'elle était à l'origine. La Libre Pensée s'est exprimée sur le chemin qui a mené à la situation d'aujourd'hui, montrant l'ampleur des reniements politiques sur les questions laïques et républicaines de ces dernières décennies, les reniements législatifs sous la Ve République qui procèdent d'un seul précédent, la loi Debré de 1959, adoptée malgré l'opposition de tous les défenseurs de la République laïque, qui a scellé le pacte d'argent entre l'Église et le pouvoir gaulliste, pacte qui a rendu possible toutes les régressions anti-laïques ultérieures. Et le meeting du 6 décembre l'a montré, une nouvelle situation s'est levée en France avec une volonté d'en finir avec le financement public des écoles privées et celle de défendre l'école publique laïque qui est menacée de toutes parts. Le mot d'ordre abrogation de Lola Debré a été scandé. De même, le meeting a clarifié les choses. Le mouvement laïque ne confond pas la loi de séparation de 1905, qui est une loi de liberté, et la loi de liberticide dite séparatisme. Il y a bien donc clairement deux côtés, celui des partisans de la liberté de conscience, d'expression et d'association, et de l'autre, les liberticides, xénophobes, racistes et identitaires. Le meeting s'est clos par la lecture du texte commun des organisations laïques, Vigie de la laïcité, Libre Pensée, Solidarité laïque, Union rationaliste, Ligue de l'enseignement et Ligue des droits de l'homme, qui sur la base de leur analyse de la situation présente, ont lancé un appel à la résistance afin de rétablir la laïcité sur ses bases historiques en retrouvant la vision originelle qui en faisait un système de promotion de la liberté et non de surveillance de l'opinion. Je vous donne les points qui terminent cette déclaration. D'abord, refaire droit à la liberté de conscience. Chacun doit pouvoir exprimer jusque dans l'espace social ses propres convictions et croyances sans qu'on lui impose, au nom d'un ordre moral que l'État se chargerait de définir, une quelconque invisibilité sociale ni une artificielle homogénéité idéologique. Reconstruire la dépendance de la sphère politique. L'un des grands motifs de la loi de 1905 a été de placer l'État en dehors de tout contrôle des Églises. Nous souhaitons renouer avec cette visée qui est la condition d'une action publique autonome, laissée, loin de toute soumission aux diverses cléricatures, aux seules déterminations de la délibération civique. Renouer avec l'idée de droit social. Rappelons qu'au moment de la délibération de 1905, plusieurs défenseurs de la loi avaient affirmé, tel Jean Jaurès, que la République ne resterait laïque qu'à la condition d'être sociale. C'est là aussi un point d'ancrage de cette déclaration. Il ne peut y avoir de réelle liberté indépendamment de l'amélioration des conditions matérielles dans lesquelles se déploient les existences individuelles. Sur notre site, vous trouverez le texte complet de cette tribune, donc signé par l'ensemble des associations, de même que les interventions de la Libre Pensée et de l'Association internationale de la Libre Pensée.
Oui, donc tu nous as parlé de la loi de 1905, mais donc en fonction de ça,
que peut-on dire de la présence de certaines crèches, enfin de crèches dans certaines mairies ?
Alors, pour garantir la liberté de conscience des citoyens, la loi de 1905 a interdit à l'État de reconnaître, de salarier ou de subventionner les cultes, c'est-à-dire de donner une place particulière, sous quelque forme que ce soit, à un culte, afin d'écarter toutes les discriminations ou tous les privilèges et garantir à chaque citoyen son droit plein et entier. Excusez-moi. Son droit plein et entier à un traitement égal devant la loi. C'est la raison pour laquelle, à la suite du vote de la loi, tous les symboles religieux ont été retirés, notamment des bâtiments abritant un service public. Rétablir la neutralité de l'État et des services publics est un combat hautement laïque, donc. La Libre Pensée mène ce combat pour faire sortir les crèches religieuses des services publics où on les a installées, afin qu'aucun citoyen qui entre dans ces lieux ne puisse dire « je ne suis pas un citoyen de plein droit ». Dans notre département, nous avons établi, chaque année, un état des lieux de la situation, dans la mesure évidemment de nos possibilités ou celles qui nous sont laissées. Nous constatons que pour justifier de la présence de ces crèches, on leur attribue un caractère provençal. On avance l'argument fallacieux d'une tradition, une sorte d'universel qui s'appliquerait à tous dès lors qu'on habiterait la Provence, pensant ainsi gommer le véritable caractère religieux de ces crèches que leur confère la représentation de la nativité incarnée par les santons Marie, Joseph et Jésus et le message qui y est attaché. Au fil des années, nombreuses mairies ont trouvé la parade pour maintenir leurs crèches malgré la loi de séparation des cultes et de l'État, en leur donnant un caractère culturel, festif ou en les incluant dans une exposition. C'est le cas dans notre département d'un grand nombre de mairies. Nous constatons cependant qu'au fil du combat que nous menons, celui-ci commence à payer. Ainsi, cette année dans le hall de la mairie du 1-7 des villages provençaux, mais pas d'installations religieuses.
Ah, voilà.
Pour rappel, en 2017, constatant l'existence d'une crèche dans cette mairie, crèche que la maire de l'époque, Madame Narnussi, faisait bénir par un prêtre, la Libre Pensée des Bouches-du-Rhône avait fait un recours auprès du tribunal administratif qui, dans son jugement de 2018, l'avait interdite. Depuis, il n'y a plus eu de crèche. Dans la mairie du 13e, 14e arrondissement, je parle de crèche religieuse, bien entendu. En 2018, une crèche installée par le maire de l'époque, Stéphane Ravier, donc dans la mairie du 13e, 14e arrondissement, par le maire de l'époque, Stéphane Ravier, qui l'avait fait bénir, avait été interdite par le tribunal administratif suite au recours déposé par la Libre Pensée. L'année suivante, nouvelle crèche, cette fois bénie par Stéphane Ravier lui-même, invité comme sénateur par sa nièce Sandrine Dangiot, alors maire RN du secteur. Nouveau recours de la Libre Pensée. Ce sont les services juridiques de la mairie de Marseille, sous la majorité municipale Rubirola-Payan, du printemps marseillais, qui ont pris en charge la défense de la maire RN du 13-14. Curieusement, le tribunal administratif n'a pas interdit cette fois-ci la crèche religieuse. Situation qui, bien évidemment, a encouragé l'actuel maire du secteur à poursuivre l'installation d'une crèche religieuse les années qui ont suivi. Mais cette année, si une crèche est bien présente, Jésus, lui, est demeuré absent. Autant à cette crèche, son caractère donc religieux. Au conseil départemental, comme l'an dernier, il y a bien une crèche, mais elle est cachée au public. Impossible de l'approcher, contrairement aux autres années où elle était exposée en grand et à grand renfort de publicité. La partie du hall où se trouve cette crèche est réservée aux agents départementaux. Ce qui n'enlève évidemment rien au fait qu'il est interdit d'installer des emblèmes religieux dans un emplacement public, article 1 de la Constitution et article 28 de la loi de 1905. En réserver l'accès aux agents municipaux, on se demande pour quel usage, pourrait être considéré comme portant atteinte à leur obligation de neutralité pendant le service. La Libre Pensée se réserve le droit d'intervenir sur la question. Martine Vassal, cachant au public la crèche qu'elle a fait installer et dont elle s'enorgueillissait jusqu'alors au nom de la tradition des racines chrétiennes de la Provence, savait tout de même le déplacement. Nous l'avons constaté, l'opération crèche dans les mairies et collectivités locales engagées contre la laïcité, sous couvert de tradition, se poursuit. Cependant, loin de s'amplifier, elle s'affaiblit, même s'il reste des points de résistance. Nous devons poursuivre le combat entrepris pour préserver la neutralité des services publics, la laïcité, donc la liberté de conscience des citoyens. À propos des crèches dans le département, évidemment, je ne vous ai pas tout cité, vous trouverez le détail de cette enquête dans notre journal, le dernier journal, L'Impertinent.
Merci. Non, excuse-moi de l'interruption, là, c'est parce que, hop, voilà, c'était un réflexe un peu idiot. Je te propose de nous... faire une petite plage musicale.
Oui, Michel. Donc, j'ai choisi une chanson de Georges Brassens qui s'appelle « La mauvaise réputation ». La chanson est sortie en 1952 et a été interdite d'antenne à la RTF. J'ai choisi cette chanson dont le texte revendique la liberté d'exister, tout simplement, de penser et de vivre à sa guise, sans se soumettre aux diktats d'une société qui, faite d'interdits, chercherait à cadenasser l'expression libre et la contestation sociale. Son arme, la stigmatisation de ceux qui ne rentrent pas dans le moule pour justifier de la répression. Une chanson pour le droit à la liberté de conscience, mère de toutes les libertés.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Voilà. Donc, pour terminer, nos annonces traditionnelles. Tout d'abord, le banquet républicain, dit de la tête de veau, qui aura lieu le 25 janvier à Marseille, précisément au centre d'animation des Grands Carmes, 2 rue des Carmes, avec à 10h30 un débat sur liberté de conscience ou loi séparatisme. Deuxièmement, il vient de paraître le numéro de la Fédération départementale cette revue qui s'appelle L'Impertinent, avec les textes des interventions du président et du secrétaire général adjoint de la Libre Pensée, ainsi que celle du porte-parole de l'Association internationale de la Libre Pensée dans le meeting du 6 décembre. Enfin, dans l'Idée libre, paru en décembre 2025, consacré à des textes fondateurs liés à la séparation des Églises et des États, vous trouverez aussi d'ailleurs le passionnant parcours intellectuel sur la question de comment s'émanciper de la tutelle du catholicisme d'un libre penseur dont un collège de Marseille porte le nom, Edgar Quinet, qui vécut de 1803 à 1875. Et donc, merci à Claudette Coudeville, Henri Huil pour ce qu'il nous a envoyé, Michel Garin et Daniel de Radio Galère qui nous prête cette plage de son émission Article 25. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, www.lp-13.org. Au revoir. Et au mois prochain, le mercredi 4 février, de 13h30 à 14h30, comme habituellement.
Alors moi, je tiens à rappeler tout simplement, ou à signaler à nos auditeurs, que s'ils sont intéressés par la libre-pensée, parce qu'après tout, pourquoi pas, hein, ce serait peut-être bien, s'ils sont intéressés, ils peuvent nous contacter par le fameux site qu'on a dit tout à l'heure, et à ce moment-là, on leur donnera les renseignements, et on verra si ça les intéresse, ben pourquoi pas venir rejoindre notre combat.